qu'il y a entre les êtres, et notamment entre ceux qu'on appelle les hommes et ceux qu'on appelle les femmes, de telles disparités, sédimentées par des siècles de relations de pouvoir, devenues habitudes, que c'est impossible d'imaginer que quelque chose, comme de l'amour, puisse exister, qui ne soit pas, à un moment ou à un autre, un chantage fait aux femmes pour leur consentement à l'oppression. Il faudrait tout dissoudre et tout recommencer. En tout cas, refuser ce qu'on appelle amour avant d'avoir déconstruit les identités sexuées et reconstruire, en partant simplement de ce qui reste, des choses inévacuables, comme l'existence de l'affection ou du besoin sexuel. Ne se donner aucune forme préétablie et voir ce qui advient.
Mais en quoi ce que tu appelles affection ou besoin sexuel serait une réalité plus simple, moins construite, que ce que l'on appelle amour? Par exemple, le besoin sexuel, dès qu'on répond à ce supposé besoin autrement que par la masturbation, rien n'est simple. Dès qu'il y a lien sexuel, dès qu'il y a un acte, tout est tout de suite compliqué. Parce qu'un acte, ce n'est pas simplement quelque chose qui vous sort comme ça, une décharge motrice. Même si, à l'aide d'un certain nombre d'artifices, de frayages divers, ou même de l'établissement d'une certaine promiscuité, on arrive à faire de l'acte sexuel quelque chose qui n'a pas plus d'importance, dit-on, que de boire un verre d'eau. Mais ce n'est pas vrai et on s'en aperçoit vite, parce qu'il vous arrive justement de boire un verre d'eau, et après ça, d'avoir la colique. Ça ne va pas tout seul pour des raisons qui tiennent à l'essence de la chose. Par exemple, on se demande dans cette relation, quand on est un homme, si on est vraiment un homme, et pour une femme, si on est vraiment une femme. Et ça compte pour tout le monde, ça compte tout de suite. Et en plus, pour compliquer tout, certainement que si ça compte autant, ça ne compte pas pareil pour tout le monde. Et voici une porte ouverte à toutes sortes d'embrouilles.
Entre la camaraderie, l'amitié et l'amour, il y aurait à la fois toutes sortes de gradations et de différences qualitatives qu'il faudrait saisir.
Pour y arriver, il faut essayer de les observer à l'état naissant, lorsqu'elles ne sont pas encore nettement différenciées. Par exemple, il est certain qu'il y a une zone grise entre amour et amitié, d'où l'amitié aussi bien que l'amour tire leur substance. Alors l'amour peut apparaître comme un passage à la limite de l'amitié, et l'amitié comme un passage à la limite de l'amour. Aimer veut dire tenir à notre estime. La raison de notre amour tient généralement au fait que nous nous enrichissons, soit que nous absorbions l'être aimé de nous, soit que celui-ci agisse sur nous et nous forme.
Plus deux êtres sont intérieurement proches l'un de l'autre, plus ils deviennent l'un pour l'autre, la condition qui seule permet à leurs deux natures de s'extérioriser. Ils deviennent l'un pour l'autre la révélation permanente de leur nature.
Oui. Mais il y a une différence caractéristique entre les êtres et les sympathies, suivant qu'ils voient dans la communauté la plus chère le moyen en quelque sorte de se fondre l'un dans l'autre et de se rappeler constamment l'un à l'autre, ou le moyen de s'oublier dans un autre intérêt commun.
Les êtres du premier type seraient plus disposés à l'amour, les autres à la camaraderie?
Peut-être.
Le dépassement de la sphère personnelle que le désir absorbe en quelque sorte dans l'amour sensuel, est également un trait de l'amour.
Aucun chemin ne conduit de la passion sensuelle à la sympathie profonde des esprits, mais il y en a un qui mène de celle-ci à celle-là.
La proximité spirituelle entre deux êtres aspire à s'exprimer physiquement, mais il arrive que l'expression physique engloutisse la proximité spirituelle.
Le contact physique peut transformer la sympathie la plus conditionnelle en amour.
Il n'est pas rare que deux personnes s'aiment, mais il est rare qu'elles s'accordent.
Un
grand intérêt commun qui remplisse la vie est peut-être la seule chose qui assure une durée à l'inclination, car les personnalités, même si elles sont
riches,
s'épuisent.
Il faut s'aimer, comme le disait le chrétien, en Dieu.
Pour préserver la pureté d'une amitié entre sexes différents, il faut soit une petite antipathie physique, soit une grande sympathie spirituelle.
Quantitativement, le plus grand amour est l'amour brûlant. Et qualitativement, le meilleur amour est l'amour profond.
La profondeur de l'amour est dans l'amitié.
L'amitié peut dépasser graduellement l'amour, mais ce phénomène n'est pas conscient parce que l'amour réside dans l'illusion de l'exclusivité.
L'ami donne, l'amant exige.
Dans l'inclination mutuelle entre deux êtres, l'amoureux n'est pas toujours le
plus
aimant.
Dans l'amitié, On s'aime parce qu'on se voit tel que l'on est. L'amitié repose sur le savoir. Elle est la force qui permet de se comprendre. Dans l'amour, on s'aime parce qu'on se voit tel que l'on n'est pas. L'amour repose sur la croyance. Il est la force qui permet de se faire aimablement illusion.
Le plus grand amour est celui qui naît de l'amitié. Et la plus grande amitié est celle qui provient de l'amour.
Alors donc, il peut y avoir de l'amour sans amitié et de l'amitié sans amour. Et même, c'est comme ça que c'est le plus souvent, comme ça qu'on nous éduque, n'est-ce pas? Mais on peut vraiment dire que ce sont des expériences amputées.
Bon. Et si on voit les choses comme ça, qu'est-ce qu'il en est du sexe?
Car il est bien sûr que les amants s'émancipent de leurs liens familiaux, mais tout aussi sûrement, ils en transforment la puissance intérieure. Même si chacun isolément en reste prisonnier, l'autre, par son amour, l'en libère. S'il existe au monde un signe manifeste de véritable amour, c'est que, pour ceux qui s'aiment, non seulement l'abîme du sexe, mais encore celui de la famille s'est refermé.
On peut dire que l'amour a incorporé l'amitié comme une de ses composantes quand il pourrait ne plus y avoir d'acte sexuel entre ceux qui s'aiment. Deviennent amis les amants qui peuvent se regarder comme ayant perdu leur sexe, au moins pour un temps. Ami, celui dont tu oublies qu'il a un sexe, et que tu oublies de séduire, et qui ne te le rappelle pas ni ne l'exige. Ami, celle qui te fait oublier ton incomplétude et le désir de fusion.
Pourtant, il n'est pas possible de dire que l'amour et l'amitié sont une seule et même chose.
Non. Mais l'amitié est nécessaire à l'amour pour qu'il se défasse de ce qu'il peut contenir de négation de l'autre en tant qu'il existe, c'est-à-dire en tant qu'il ne peut pas venir simplement occuper la place que l'amoureux lui assigne, en particulier la place de la femme, la place de l'autre avec un A majuscule, sans s'anéantir. Dans l'amour extrême, il y a une négation de l'autre, annulation causée par la réminiscence de ce que sa rencontre a provoqué, par exemple une inspiration poétique. L'amitié est nécessaire à l'amour pour qu'il atteigne sa vérité, vérité qui ne peut apparaître que dégagée de sa tromperie où se masque la fausse demande narcissique de l'exaltation de l'autre.
Bon, dans ce cas, l'amour serait donc seulement presque impossible. Mais pourquoi faut-il que l'amour soit toujours nécessairement, du moins dans un premier temps, le vivant témoignage d'un mirage ?
L'abandon au mirage est peut-être simplement une manière de répondre, en la masquant, à une contradiction qui serait comme l'axe de l'expérience amoureuse. À savoir, le fait d'appeler à la fois l'abandon à l'autre et la réserve. Ou encore, le désir de n'exister que pour se tourner ensemble vers autre chose, qui requiert la plus grande disponibilité à ce qui peut advenir avec l'autre, et le désir de voir l'autre s'abandonner à ses pentes propres, qui sont ce qui rend un être à proprement parler aimable, ce par où vit son mystère. Laisser être l'autre, laisser l'autre cultiver ses inclinations, celle-là même qui risque toujours d'être séparatrice, tâche infiniment difficile. Mais c'est sans doute cela, la part de l'amitié dans l'amour.
Je dois donc vivre selon ce que je suis. La seule façon d'aimer, c'est de laisser chacun de nous être sa manière d'être. C'est de nous abandonner chacun à l'autre. L'unique contenu de cet abandon réciproque est que chacun soit sa manière d'être, et puis seulement sa propre puissance ou possibilité. Pourtant, ah, qui pourrait deviner comment on regarde celui qu'on aime quand le cœur est chargé d'amour? On ne veut perdre un seul instant, mais tout pâtir avec lui-même. Ô volupté de l'absence d'autosuffisance, de l'attachement comme subsistance en l'autre, celui qui m'accompagne comme le placenta accompagne le fœtus, à la fois cet éther où je flotte et le compagnon qui y flotte avec moi.
Au fond, n'est-ce pas seulement à un regard analytique que ces deux composantes se donnent comme inconciliables ? Le rêve vécu de l'amour serait ce qui fait qu'il s'agit non de deux exigences contradictoires, mais des deux pôles d'une unique expérience d'intime extranéité, comme dit une philosophe. Une expérience qui maintient la distance avec la proximité, c'est-à-dire dans laquelle la proximité ou les proximités à l'autre n'abolissent ni l'espacement qui rend possible l'attraction, ni la proximité à soi que sont les abandons à nos pentes intimes. Tout se passe comme si le difficile qui s'introduit par tel ou tel biais dans la relation amoureuse devait se formuler dans les mots mêmes de sa plus haute vérité, comme en une version parodique. C'est ainsi que l'intime extranéité est exposée au risque de nommer la condition déchue de deux êtres devenus des étrangers intimes, ou encore que le loin-près qui nomme l'espace de l'attraction peut devenir le mode de coprésence habituel de deux êtres qui s'absentent mutuellement aux côtés l'un de l'autre. Du premier état à sa parodie, il n'y a chaque fois qu'un saut de l'autre côté de l'abîme étroit qui sépare la grâce de la malédiction, l'absence de surveillance de la distraction.
L'été était en avance cette année, et un peu déréglé. Tout a fleuri à la fois.
Ce n'est pas le temps.
Les prés, le lilas blanc.
Ni aucune lassitude qu'il faut craindre dans l'amour.
Les pommiers qui perdent
une impression de sécurité. De rose.
Les iris éphémères, si ardents et graves.
On oublie que cet être charmant est passager.
Un buisson de son corsage serré.
On en jouit à peine, comme d'un été qui reviendra, laissant perdre tant de beaux jours.